bien le bonjour, chers amis. Je suis Martin, étudiant en histoire et anthropologie à l'École normale supérieure et à l'École des hautes études en sciences sociales. Asseyez-vous donc au coin du feu ou sous un rayon de soleil et laissez-moi vous raconter une histoire. L'histoire de l'île Dieu. S'il y a bien un monument emblématique de l'île Dieu, c'est le vieux château. La forteresse, aujourd'hui en ruine, semble se confondre avec les roches de la côte sauvage. Ses tours maçonnées veillent éternellement sur l'île Dieu, tels des géants endormis. Sauf que le vieux château n'a jamais servi à défendre l'île Dieu. Quand on s'y attarde deux minutes, ça paraît assez évident en fait. Comment une minuscule forteresse pourrait protéger une île entière? Surtout qu'elle est située sur la côte rocheuse, alors que les ports, là d'où peuvent venir les ennemis, sont de l'autre côté de l'île, sur la côte sableuse. Souvenez-vous, dans un précédent épisode, je vous expliquais que la tombe de la pointe de Gilberge, puis la villa gallo-romaine, avait été spécifiquement construite dans l'immédiate proximité de Kerchalon, le port historique de l'île. Alors pourquoi construire un château fort sur la côte sauvage? Et surtout, pourquoi soudainement l'île Dieu a-t-elle besoin de se défendre? Contre qui? Pour découvrir l'histoire qui se cache derrière ces vieilles pierres, il faut remonter au 7e siècle, bien loin des côtes de l'île Dieu, dans la péninsule arabique.
Je chante la petite guerre des braves enfants de naguère qui sur la plage ont bataillé pour sauver un château de sable et ses remparts infranchissables qu'une vague veut balayer.
Historia, Oya, l'épisode où l'Abbé ne fait pas le seigneur.
Dans la citadelle, de pied ferme, nous attendions une cohorte sarrasine, partie de la côte voisine, à l'assaut de notre bastion. À 100 pas de là sur la dune, en attendant que la fortune des armes sourit au vainqueur, languissant d'être courtisé. Nos promises, nos fiancées, préparaient doucement leur cœur.
Et oui, pour comprendre les changements qui amènent l'île Dieu au centre des enjeux de pouvoir entre les couronnes européennes, il faut revenir à la naissance de la religion musulmane au 7e siècle de notre ère, dans l'une des zones périphériques de l'ancien empire romain, la péninsule arabique. Cette nouvelle spiritualité provoque un grand embrasement qui, sur les cendres des couronnes byzantines et sassanides, fonde un nouvel empire. À l'ouest, il se heurtera à Constantinople, dernier bastion byzantin qui tiendra encore un demi-millénaire, et s'arrêtera en Espagne avec le royaume d'Al-Andalus. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que les Arabes n'ont pas été arrêtés à Poitiers. Ce qu'ont affronté Roland et Charlemagne, c'était une pauvre expédition de pillards berbères à peine convertis à l'islam. En fait, c'est plutôt Charlemagne l'envahisseur dans cette histoire, puisqu'il utilise ces quelques brigands comme prétexte pour rattacher l'Aquitaine à son empire. Mais bon, fermons la parenthèse. En réalité, l'empire de l'islam n'a jamais été bien uni. Assez rapidement, il se délite en une mosaïque de petits royaumes. Pourtant, le changement est considérable. La Méditerranée est coupée en deux, avec sur une rive les chrétiens, sur l'autre les musulmans. Ces derniers se tournent rapidement vers l'océan Indien et l'Afrique pour leur commerce, laissant l'Europe de côté au profit de l'Inde et de la Chine en pleine croissance économique. Cerise sur le gâteau, la piraterie profite des jeux de pouvoir et pullule en Méditerranée. Les Européens se tournent alors vers de nouveaux partenaires commerciaux du côté de la mer du Nord. En effet, c'est l'époque où les peuples scandinaves se pointent en Europe pour commercer et parfois piller sur leurs fameux bateaux, les longships incorrectement appelés drakkars. Dans ce contexte, l'île Dieu devient un lieu stratégique. Avec ses ports naturellement protégés non loin de l'estuaire de la Loire, elle devient un relais nécessaire pour le cabotage. Mais cet avantage se retourne rapidement contre les îlets. Sans grande défense, l'île est ouverte à tous les pirates de passage. Qu'ils viennent de la péninsule ibérique ou des fjords de Scandinavie, les boucaniers et corsaires trouvent en l'île Dieu un refuge et un lieu d'approvisionnement. C'est l'époque des Vikings. Au début du Moyen-Âge, l'île-Dieu se retrouve sur la route des pirates. Mais est-ce une raison suffisante pour bâtir un château sur l'île ? En effet, un seul château, ce n'est pas assez pour empêcher les navires ennemis de se ravitailler sur l'île. Alors, à quoi sert-il ? Et surtout, qui l'a construit ? Revenons deux secondes à la fin de l'Antiquité. Après que les Pictons aient délaissé l'île-Dieu, nous en parlions dans le dernier épisode, l'île était redevenue un rocher parmi d'autres. L'idéal pour une communauté monastique. C'est sans doute l'attrait des religieux pour les lieux reculés et pas spécialement hospitaliers qui explique que dès le début de l'époque mérovingienne, il y a une église à l'île-Dieu. Plus on souffre pour Dieu, plus on a de chances de finir sanctifié. Telle était la logique de nombre d'évangélisateurs de l'époque. Donc, lorsque les pirates andalous ou scandinaves mettent le pied sur l'île-Dieu, qu'est-ce qu'ils voient ? D'un côté, une poignée de paysans miséreux, de l'autre, des moines qui prient devant des croix en or. Vous vous doutez que leur choix est rapide. Ainsi, les moines doivent régulièrement fuir devant les armes des brigands. Courageusement, ils vont se planquer quelque part sur l'île et attendent gentiment que les envahisseurs soient rassasiés de vin de messe et de crucifix précieux. Après, il ne leur reste plus qu'à rentrer au monastère et tout reconstruire. Mais finalement, cette communauté va partir en fumée, assez littéralement. Vers le 9e siècle, un incendie décourage définitivement les pauvres moines qui repartent sur le continent, laissant une nouvelle fois l'île-Dieu à la mer. Les continentaux ne reviendront embêter les îlets qu'après l'an 1000. Ah, l'an 1000. Mettons-nous tout de suite d'accord. Il n'y a pas eu de terreur de l'an 1000. D'abord parce que la quasi-totalité de la population européenne ne connaissait pas la date et s'en fichait éperdument. Et surtout parce que personne ne croyait sérieusement que la fin des temps allait se déclencher 1000 ans après l'arrivée de Jésus. Tout cela est une pure invention de Michelet pour critiquer les superstitions chrétiennes. Alors, bon, qu'est-ce qui change vraiment autour de l'an 1000 ? Tout d'abord, il y a la réforme grégorienne. Le pape Grégoire VII en a plus cassé que les rois, les évêques, les moines fassent leurs affaires dans leur coin sans le consulter. Il est le pape, mince ! Alors, il met en place toute une série de réformes pour serrer la vis à ses ouailles. Plus question de s'amuser et de se la jouer saint martyr comme avant. À présent, tous les prêtres et les moines d'Europe bossent pour l'église romaine. D'une religion, le catholicisme devient une institution. Et cela implique un quadrillage beaucoup plus rigoureux du territoire. Plus question de laisser les paysans continuer tranquillement leur culte païen. Et sur l'île-Dieu, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Au XIe siècle, un nouveau monastère, Saint-Étienne, est bâti sur l'île. Mais les résultats sont mitigés, car, 4 siècles plus tard, il finit comme son prédécesseur, incendié, et les moines repartent de rechef sur le continent. En 1712, au XVIIIe siècle, le boulot n'est toujours pas fini, puisqu'il faut faire appel à un évangélisateur, Louis-Marie Grignon de Montfort, pour renforcer la foi des îlets. On peut facilement imaginer que si l'Église a déployé de tels efforts sur des siècles et des siècles pour seulement quelques milliers d'habitants, c'est que le culte des corbeaux n'était peut-être pas tout à fait mort à l'île-Dieu. Mais n'allons pas trop vite et revenons au XIe siècle. Car à ce moment-là, les moines ne viennent pas seuls. Au moment où le clergé lance la réforme grégorienne, le royaume de France connaît en effet un mouvement appelé féodalisation. En gros, la couronne ne parvient plus à contrôler les multiples seigneurs de guerre et autres soldats brigands qui ravagent le territoire. Pour gérer tout ce petit monde, un système hiérarchique se met en place, la vassalité. Les seigneurs importants donnent des terres à des guerriers et en échange de ce fief, les guerriers aideront le seigneur s'il se lance dans une guerre. Du point de vue des paysans, le changement est de taille. Le pouvoir se rapproche d'eux et il devient de plus en plus dur d'échapper au regard des seigneurs locaux qui les observent depuis leur donjon. Bon, coup de chance, l'île-Dieu n'est pas assez riche pour être un fief à elle toute seule. Néanmoins, elle est rattachée à Noirmoutier sous la coupe des seigneurs de la Garnache. Ces derniers aident sans doute les moines de Saint-Étienne à s'installer et à s'enrichir, ne serait-ce que pour faire plaisir à l'Église qui sort renforcée de la réforme grégorienne. Seigneurs et abbés, main dans la main, vont exploiter l'île comme jamais auparavant, l'époque des pirates et de l'aventure est finie. Voici venir le temps de la politique et de la guerre.
And who are you, the proud lord said, that I must bow so low? Only a cat of a different coat, that's all.
Quand les nouveaux moines et les nouveaux seigneurs arrivent sur l'île Dieu aux alentours de l'an 1000, ils sont confrontés à un problème majeur. En raison de l'éloignement, impossible de laisser de contingents de soldats sur l'île. Et ça, c'est la porte ouverte aux corsaires. Ces corsaires ne sont plus scandinaves ou andalous, mais anglais et espagnols. Et puis, imaginez, les îlets pourraient avoir envie de se révolter. Donc, dès leur arrivée au 11e siècle, les nouveaux moines se construisent un bastion en bois à l'emplacement actuel du vieux château. Comme ça, la prochaine fois qu'un envahisseur débarquera, ils pourront s'y réfugier avec toutes leurs richesses, une sorte de bunker médiéval. C'est au XIVe siècle que le nouveau seigneur de l'île Dieu, Olivier IV de Clisson, transforme la forteresse de fortune en véritable château fort. Officiellement, ce serait pour protéger les îlets. Mais on a quelques raisons d'en douter. Pour comprendre les véritables intentions d'Olivier de Clisson, il faut revenir un peu en arrière. Lorsque les moines et les envoyés du Seigneur arrivent sur l'île, ils deviennent autant de bouches à nourrir qui sont trop occupées à prier ou à guerroyer pour produire leur propre nourriture. Le problème, c'est que quand ils arrivent, les îlets ont tout juste assez d'agriculture pour subvenir à leurs propres besoins. Moines et seigneurs décident de mettre les îlets au travail. Ils leur font défricher tous les espaces naturels de l'île pour augmenter les surfaces arables. Ils importent des lapins et des daims dans des parcs à gibier pour fournir les tables du monastère en viande délicate. Et tout ce surplus de richesses que les îlets produisent, ce ne sont pas eux qui en profitent, mais les seigneurs et les moines. Globalement, on les fait travailler plus pour pouvoir leur voler plus. Pour vérifier que tout ce petit monde bosse assez dur et n'ait pas de velléité de révolte, un gouverneur, flanqué d'une poignée de gendarmes, est installé sur l'île Dieu. Et devinez où il s'installe ? Au vieux château. Et oui, comme ça, les îlets n'ont aucun moyen de le jeter à la mer ou de récupérer leurs biens. Vous me direz que je lui fais un procès d'intention à ce pauvre gouverneur. Mais les événements historiques montrent bien qu'il était davantage là pour arracher des taxes que pour protéger la populace. Quand les Anglais pointent enfin le bout de leur nez, en 1355, ils prennent l'île sans problème. Ils nomment alors leur propre gouverneur, un corsaire du nom de Robert Knowles. Et Robert, il s'installe tranquillement, au vieux château, et oui, sans que les îlets n'y puissent rien faire. Après tout, pour eux, quelle que soit la personne à qui ils payent des redevances, l'oppression a le même goût. Mais un autre événement, quelques années plus tard, nous en apprend plus sur les intentions du gouverneur. À cette époque, le gouverneur, c'est un certain Aimonet le Roi. Lorsque les Anglais reviennent, cette fois davantage dans l'intention de piller que d'occuper l'île, les habitants vont se réfugier dans le château. Parmi eux, il y a un laboureur, c'est-à-dire un paysan relativement aisé, nommé Guillaume Noiron. Guillaume habite du côté de Port-Breton, l'actuel Port-Joinville. Et en arrivant au château, il se crêpe le chignon avec le gouverneur à deux reprises. Une fois parce qu'il veut faire stationner ses bœufs sur le pont, une autre fois à cause d'une mesure de blé gênant l'ouverture des portes. Bon, tout cela peut sembler bien anecdotique, mais on peut aussi essayer de comprendre la colère de ce bon Guillaume. En effet, le vieux château n'est pas immense. Alors il faut imaginer que c'est difficile de faire rentrer tous les îlets à l'intérieur. De plus, chacun cherche à y amener ses richesses afin de les protéger du pillage. D'un côté, pour le gouverneur Aimonet le Roi, l'important c'est le trésor des moines et les redevances seigneuriales. De l'autre, pour Guillaume le laboureur, ses deux bœufs et son blé, ça représente toute sa richesse. Peut-être que sans eux, il ne passera pas l'hiver. Alors, on peut comprendre qu'il soit en rogne lorsqu'on lui dit qu'il n'y a pas de place pour ses affaires à lui. D'autant que la fin de l'histoire est assez tragique. Lors de la seconde altercation, le gouverneur frappe Guillaume avec un bâton, le faisant saigner abondamment. Le laboureur mourra dans la nuit des suites de cette blessure. Le gouverneur, après une courte disgrâce, pour la forme, est finalement pardonné par son seigneur. Après tout, que vaut la vie d'un paysan ilet pour un aristocrate continental ? Alors, vous comprenez qu'on peut raisonnablement douter que le vieux château ait été construit pour défendre les ilets. Si les seigneurs de la Garnache et leurs successeurs ont installé cette forteresse, c'est pour assurer leur investissement, pour protéger les moines et leurs richesses face aux envahisseurs, ou peut-être face aux ilets eux-mêmes. Dans cette histoire, que je tire en grande partie des travaux de Maurice Essel, on pourrait avoir l'impression que le peuple a perdu. En effet, à partir des sources monastiques et seigneuriales qu'il a exploitées, on pourrait avoir l'impression que, après avoir évincé les aristocrates pictons et les premiers moines, les ilets ont finalement baissé la tête et accepté la domination des puissants du continent. Mais ce serait aller un peu vite en besogne. Si la révolution n'était pas encore à l'ordre du jour, la résistance, elle, n'a jamais cessé. Mais ça, c'est une histoire que je vous raconterai un autre jour. En attendant, laissons les seigneurs et les religieux festoyer sur le dos des ilets, qu'ils en profitent tant qu'ils ont encore la tête sur les épaules.
Ça fait quelques années maintenant que je suis lentement entre la rage et l'apathie. Non, plutôt régulièrement pour te dire à quel point les plus grands sont en fait petits. À coups de lumière et de couleurs dans le téléviseur, on te vend Goliath en David. Si bien que je m'étonnerais pas de sentir de mes mains les parois de sa bouche à vide. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi.
C'était Historia Oya avec votre serviteur, Martin. Merci de m'avoir accompagné pendant cette exploration de l'histoire de l'île-dieu. On se retrouve très vite sur les ondes de Neptune. Et en attendant, vous pouvez découvrir d'autres podcasts d'Historia Oya sur le site neptunefm.com.
Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Et rien ne va depuis que les hommes ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Et rien ne va depuis que les hommes ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Appétit, si je restais promis, vous vous noirez aussi. Si je me noie, vous vous noirez aussi. Si je me noie, vous vous noirez aussi. Moi dans les flots, vous dans votre appétit. Si je restais promis, vous vous noirez aussi. Et rien ne va depuis que les hommes ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les